Réconcilier une Amérique divisée, c'est l'ambition du futur 46e président des États-Unis.
Donnons-nous une chance. Il est l'heure de mettre de côté les rhétoriques brutales, de calmer le jeu, de recommencer à se voir, à s'écouter et à avancer. Nous devons arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis. Ils sont américains.
Mais pour entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier, Joe Biden va devoir déloger un locataire encombrant. Mauvais perdant, Donald Trump s'entête à revendiquer sa victoire. Comme si ne rien n'était, il s'est offert ce week-end une partie de golf et s'est invité quelques instants à une fête de mariage. Alors que le monde entier a déjà tourné la page, le républicain peut compter sur le soutien de ses irréductibles supporters, toujours très remontés contre les médias. L'équipe de campagne a lancé des appels aux dons pour financer les actions en justice que le camp Trump promet de multiplier.
Il faut refaire l'élection. Celle-ci est complètement corrompue.
Nous avons des gars à Phoenix, en Géorgie, dans le Wisconsin, le Michigan, en Pennsylvanie. On a des centaines, des milliers de gens qui se rassemblent pour faire entendre leur voix. Car nous voulons une élection libre, juste et transparente.
Au pays des armes à feu presque en vente libre, ce climat tendu peut-il basculer dans la violence? Comment va se dérouler la période de transition entre les deux présidences? Joe Biden peut-il seulement être entendu par les plus virulents des Trumpistes?
Fox News, la chaîne Fox News, pourrait-elle jouer un rôle et contraindre Donald Trump à reconnaître sa défaite, Laurence Nardon? En effet, Fox News, que Trump regarde assidûment, était la première chaîne, le premier média à annoncer sa défaite en Arizona. On peut également citer le New York Post qui a publié à sa une photo et un titre surprenant. It's Biden time, c'est le temps aujourd'hui pour Joe Biden. Est-ce que ça peut ébranler tout ça, Donald Trump, cette défection de ses soutiens médiatiques?
Ce qui est certain, c'est que là, il y a un petit flottement côté républicain entre ceux qui continuent à soutenir le président et ceux qui ont déjà accepté que Biden était élu. En ce qui concerne Fox News, il faut savoir que c'est pas la chaîne la plus trumpiste du paysage médiatique américain. Notamment, tout ce qui est rédaction chez Fox News est relativement raisonnable. Ce sont les commentateurs qui sont extrêmement...
À l'antenne, à l'écran, donc.
Les commentateurs dans les émissions de débat du soir et du week-end.
D'opinion.
Mais de toute manière, on voit bien dans cette élection une évolution des médias. Oui, on l'a vu. Par ailleurs, les grandes plateformes Facebook et Twitter commençaient à mettre des bandeaux
à modérer
pour contrecarrer ce que dit le président. Donc ça, c'est une évolution extrêmement importante aussi.
Alors, le chiffre du jour pour alimenter le débat.
Bah oui, c'est un chiffre qui sépare deux dates, Elisabeth. Hein, la date de l'élection et la date de l'investiture. Ce chiffre, c'est 72. Donc il y a 72 jours qui séparent ces deux dates, Justin Veiss. En France, c'est une semaine. Le président de la République est intronisé une semaine après. Pourquoi un délai aussi long aux États-Unis?
Alors, l'explication est historique, c'est-à-dire qu'il fallait du temps simplement pour le processus de l'élection et ensuite pour la prise de pouvoir. Et jusque dans les années 30, même dans des moments de crise énorme, la crise de 29 en fait, il fallait attendre le mois de mars pour que le président arrive. Roosevelt a lancé le New Deal seulement à partir du mois de mars de 1932 parce qu'il devait attendre de prendre ses fonctions. Et donc il y a eu d'ailleurs beaucoup de manifestations, beaucoup de problèmes. Ensuite, ça a été ramené au 20 janvier et donc on a ce temps-là. Alors, ça se justifie aussi par le fait qu'on renouvelle une grande part de l'administration fédérale.
Des fonctionnaires, 4000, des milliers de fonctionnaires.
4000 fonctionnaires et de rang élevé. Qu'il faut renouveler. Et donc, il y a même une publication très, très épaisse qui recense les jobs qui sont alors ouverts. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que la transition est très importante. Et c'est cette transition qui, pour l'instant, coince, alors qu'elle aurait dû démarrer cette semaine.
Et alors, autre différence avec la France, Laurence Nardon, qui peut déstabiliser le Français qui suit l'élection américaine, c'est le fait qu'il n'y a pas le ministre de l'Intérieur qui annonce les résultats. Donc, ce sont les médias qui disent qui est élu.
Pour l'instant, c'est les médias qui le disent. Et puis après, ce qui se passe d'un point de vue institutionnel, c'est que les États vont certifier leurs résultats et les envoyer. Alors la date limite, c'est le 8 décembre. Ça encore, c'est très compliqué. C'est l'envoyer pour que les grands électeurs, donc ceux qui ont été élus par les citoyens, se réunissent. Alors cette année, ce sera virtuel, le 14 décembre, date fixée, pour élire véritablement le président.
Et alors,
Et du coup, oui, non, mais vous avez raison, il n'y a pas d'organe officiel qui annonce...
Mais ne serait-ce que le gouvernement en place annonçant la victoire...
Non, mais parce que ce qui se passe d'habitude, c'est que... Pardon. Ce qui se passe d'habitude, c'est que le président qui a perdu fait ce qu'on appelle le coup de fil de concession, le concession phone call, où il appelle son ou sa successeur pour dire, ben voilà, félicitations, je vous laisse le pays, faites au mieux, etc. Ce qui, jusqu'à présent, ne s'est pas encore produit.
Justin Weiss, on voit sur cette carte-là, là où il y a un petit bonhomme, c'est Donald Trump, et c'est les différents États. Voilà, c'est les différents États pour lesquels il va déposer, ou il a déjà déposé des recours. On ne va pas tous les énumérer, mais bon, il y en a 6, la Pennsylvanie, Wisconsin, Arizona, Nevada. Ouais. Alors, qu'est-ce que signifie cette carte? Qu'est-ce qui peut réellement se passer concrètement? Est-ce que c'est simplement nuire au vainqueur Joe Biden ou ça peut être plus?
Non, c'est nuire au vainqueur et c'est se poser, continuer à exister parce que Trump va continuer à peser, en fait. Hein, je pense sur les équilibres du Parti républicain avec la menace de 2024, éventuellement.
C'est-à-dire donc, la menace de 2024, d'un retour
de se représenter, de se présenter à nouveau. Mmh. Sa popularité personnelle est très forte. Donc, vous avez tous ces gens qui ont réélu, ont remis un bulletin dans l'urne pour quelqu'un qui est menteur, misogyne, qui divise l'Amérique, etc. Mmh. Et il a une base d'inconditionnel.
Plus de 70 millions d'électeurs.
Et donc, ça, et d'ailleurs, le flottement dont parlait Laurence à l'instant, c'est aussi entre le fait de s'accrocher au pouvoir et le fait de se concentrer sur le vrai prix maintenant, qui est le Sénat. Le Sénat, il y aura donc deux second tours en Géorgie, en quelque sorte des renoffs le 5 janvier. Or, un certain nombre de gens dans le Parti républicain disent qu'il faut qu'on se concentre là-dessus pour gagner la Géorgie, pour avoir le Sénat et donc imposer une cohabitation à Joe Biden plutôt que de faire une lutte d'arrière-garde.
Juste une question à propos de la Cour suprême. Si tant est que Donald Trump récusait le résultat et contestait le résultat jusqu'au bout, la Cour suprême serait-elle le suprême arbitre? Et sachant qu'elle est conservatrice avec 6 juges républicains contre 3 démocrates, quelle serait l'issue?
Oui, alors ça pourrait se produire si on avait des résultats vraiment très contestés, des cas de fraude avérés, mais...
Il n'y en a pas.
Il n'y a rien. Il n'y a rien, donc on ne voit pas bien ce que la Cour suprême, des décisions des cours inférieures que la Cour suprême pourrait choisir, sur lesquelles elle pourrait choisir d'arbitrer.
Nadia, une affaire de grâce présidentielle qui inquiète.
Avec une question qui se pose effectivement aujourd'hui, et si Donald Trump profitait de ses derniers jours à la Maison-Blanche pour accorder des grâces présidentielles en rafale, puisque la Constitution américaine le permet, l'hypothèse est très sérieusement envisagée, notamment par le site américain Politico, pour qui, je cite, une série de pardons présidentiels. Ce serait une façon pour Trump de récompenser des amis, de protéger sa famille et également d'obtenir les faveurs de ceux qui pourraient l'aider par la suite. Et alors pourrait en bénéficier de ces fameuses grâces présidentielles. Roger Stone, c'est son ancien conseiller. Il a été condamné à 4 ans de prison dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe pour mensonge et subordination de témoins. Et d'ailleurs, Trump a déjà fait démonstration de son amitié puisqu'il est intervenu pour que sa peine soit commuée. Et il avait d'ailleurs déjà laissé entendre à ce moment-là qu'il pourrait le gracier. Le nom de Michael Flynn, son ancien conseiller à la Sécurité nationale, est aussi cité. Il est lui aussi embourbé dans une saga juridique, tout comme celui de son avocat Rudy Giuliani. Lui, il est suspecté d'avoir été en contact avec des agents russes. Et alors, il y a beaucoup plus surprenant, c'est que Trump pourrait profiter de la transition pour bénéficier lui-même de la grâce présidentielle. Il y a cette rumeur insistante qui circule en ce moment à Washington qui voudrait que Trump pourrait envisager de démissionner avant la fin de son mandat, ce qui permettrait à son vice-président Mike Pence d'assurer l'intérim à la Maison-Blanche, donc d'accorder le pardon présidentiel à Trump. Il échapperait donc à un certain nombre d'affaires et de possibles jugements. C'est un scénario assez délirant, mais pas tant que ça, puisque ça s'est déjà produit dans l'histoire américaine. En démissionnant en août 1974, Richard Nixon avait offert la Maison-Blanche à son vice-président Gerald Ford, qui l'avait gracié, qui lui avait épargné un humiliant procès au moment du Watergate. Laurence Nardon, est-ce que c'est un scénario plausible et est-ce que ce serait choquant, à la fois pour vous, mais aussi pour les Américains, si en effet Trump faisait ça, finalement?
Cette histoire de pardon présidentiel, c'est quand même, ça se produit tous les 4 ans. Enfin, quand les présidents partent, ils le font et ça choque pas plus que ça d'habitude. Effectivement, je serais pas surprise, connaissant Donald Trump, qu'il gracie à tout va les avocats véreux
dans son cercle,
entouré dans son cercle. En ce qui le concerne lui-même, pourquoi pas, mais je me demande si juridiquement, il ne faudrait pas qu'il soit mis en examen déjà pour pouvoir être gracié. Or, parce que c'était déjà le cas pour Nixon dans les années 70, mais là, pour l'instant, puisqu'il avait une immunité présidentielle et que les choses qui lui sont reprochées ne sont pas des choses liées au pouvoir, mais des questions
sur de l'évasion fiscale,
et de corruption, etc. Donc je ne suis pas. Il faudrait qu'il démissionne, que la machine juridique se mette en route pour qu'il soit ensuite gracié éventuellement par Mike Pence. Mike Pence, qui est lui aussi étonnamment silencieux ces jours-ci, comme Mitch McConnell et d'autres ténors du parti.
Autre scénario, Justin Weiss, Donald Trump qui refuserait de quitter la Maison-Blanche. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou c'est vraiment de la politique fiction?
Non, parce que il se décrédibiliserait, y compris aux yeux
de sa base.
Sa base, c'est impossible. Ouais. Mais disons, tous ceux qui sont un peu hésitants à le soutenir, qui craignent un retour en 2024, etc. Mais là on passerait à la bouffonnerie. Parce que une grande partie du Parti républicain l'a déjà lâché. George Bush a déjà dit, a déjà reconnu la victoire. Les leaders étrangers ont félicité Joe Biden pour sa victoire.
À l'exception de Vladimir Poutine, pour l'instant.
Et de Viktor Orban.
Oui, bien sûr, il y en a quelques-uns. Mais enfin, de Modi à Macron, il y a quand même eu suffisamment de félicitations pour ça. Donc non, je ne pense pas que ça soit réaliste.
Et les manifestations qui fervent Trumpy, justement, qui se développent en ce moment, est-ce qu'elles peuvent prendre un tour plus radical, ou pour le moment les choses sont contenues?
Alors, on n'a pas de boule de cristal, pour l'instant, je pense que la décence politique est quand même le lot de la majorité des Américains. Il ne faut pas croire tout ce que. Enfin, la population américaine ne se résume pas à ce qu'on lit sur Twitter et aux quelques
extrêmes. Et aux Proud Boys, et à quelques suprémacistes.
Mais enfin, ceci dit, tout est possible après
ce sont des affrontements vigoureux, mais contenus, quoi. La démocratie américaine, c'est
quand même. On a beaucoup entendu parler de l'éventualité, en tout cas, l'Amérique étant tellement polarisée, de guerre civile ou d'éruption, de prurites, ça et là, de combats. Corporelle.
Mais moi je pense qu'on a eu de la chance, c'est-à-dire que cette élection s'est bien passée. Elle s'est vraiment bien placée à la fois parce qu'il y a eu une marge malgré tout suffisante au final. On verra, au final il aura probablement plus de 300 grands électeurs par rapport à Trump. Biden aura ça, donc ça sera net. Bien sûr les marges sont assez étroites dans beaucoup d'États, mais c'était aussi le cas en 2016. En plus, l'élection, encore une fois, s'est bien passée. Donc, on a eu cette chance-là. Et du coup, il n'y a pas vraiment de raison d'éruption de violence. Mais je pense que c'était une possibilité très, très claire.
Alors, Laurence Nardon, Joe Biden, dans son discours Philadelphie, s'est engagé à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. Est-ce que ce projet réalisable, est-ce qu'il peut réconcilier deux Amériques qui, depuis 4 ans, s'affrontent?
S'il n'y avait que deux Amériques en plus.
Alors l'archipel américain, s'il y en a plus.
Oui, de toute manière, ça va aller mieux qu'avec Trump parce que Biden a fait toute sa campagne sur l'image d'une réconciliation, de l'empathie, de quelqu'un de chaleureux et de sympathique. Donc il va chercher à réconcilier, ça c'est évident. Je pense que du côté droit de l'échiquier politique, il aura affaire aux franges de l'extrême droite, en fait, qui sont un gros courant du Parti républicain aujourd'hui et qui ne voudront pas de ce président-là, donc ça n'ira pas. Il va devoir
et
aussi...
Et du côté gauche,
c'est ça. Oui.
Qu'est-ce qui va se passer avec la gauche du Parti démocrate?
À la gauche du Parti démocrate, il y a un courant très radical, autoproclamé
socialiste. Qui lui reproche déjà de se centriser.
Voilà, alors... À la différence d'Hillary Clinton, qui avait absolument ignoré Bernie Sanders en 2016, une fois qu'elle avait eu gagné les primaires, Joe Biden, lui, il a fait un effort, à mon avis, de bonne foi pour essayer de constituer un programme commun avec cette aile radicale du Parti démocrate. Maintenant, il a une garde autour de lui de modérés qui va sans doute empêcher d'aller trop loin vers la gauche, ce qui lui sera reproché. Donc, on va voir comment ça se joue dans les faits.
Et Justin Weiss, entre le Sénat qui sera dans l'opposition et la Cour suprême qui est conservatrice, quelles seront ces marges de manœuvre? Elles sont symboliques?
Alors attention, le Sénat n'est pas encore joué. Il peut encore basculer côté démocrate. C'est en Géorgie. Il y a une dynamique qui va se faire. Et d'ailleurs, comme je disais, peut-être que le fait que Trump s'accroche au pouvoir va nuire à ces courses électorales-là. Ça changera tout, en fait. ça changera tout, parce que, encore une fois, c'est Chirac 95-97 ou Chirac 97-2002. C'est-à-dire, soit il a les moyens de gouverner et il a une chambre et un Sénat avec lui, et là, il peut faire passer un certain nombre de mesures, notamment sur
Lesquelles, prioritairement, le climat, l'économie, la pandémie.
Exactement. Et si, au contraire, le Sénat reste côté républicain, c'est une sorte de cohabitation à l'américaine. Et là, alors, il peut toujours gouverner, il a plus de pouvoir qu'un président français en situation de cohabitation. Il a tout de même, il peut faire des ordres exécutifs, par exemple.
Par exemple, l'accord de Paris, il a besoin du